Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le commissaire européen au marché intérieur à toutes les questions économiques. Je signale bien sûr qu'un remaniement est imminent. On en a déjà un certain nombre de contours dès qu'il sera officiel. Nous vous en ferons part bien sûr sur BFM TV et RMC. Un mot d'ailleurs à ce propos. On sait déjà que Clément Beaune, et c'est une information RMC et BFM TV, Clément Beaune ne sera plus ministre des questions européennes puisqu'il passe au transport. Pour vous, ça change quelque chose, Thierry Breton?
Bah, écoutez,
faut prendre court, hein, je le vois
non,
bien.
Non, je trouve que c'est très bien que ça change. Voilà, Clément a été un très bon ministre à l'Europe, aux affaires européennes, et donc il sera, j'en suis certain, un très bon ministre au transport. C'est un sujet difficile.
Et je rappelle d'ailleurs que vous-même, Thierry Breton, vous aviez été ministre de l'économie en France. Vous êtes aujourd'hui donc commissaire européen. On va revenir sur d'ailleurs tout ce qui nous touche, nous en France, mais sur lequel vous avez un regard aussi beaucoup plus global. Les questions bien sûr d'inflation, l'évolution des prix, les grèves, les pénuries aussi, la question de l'énergie. Mais sur l'Europe, c'est ce week-end que s'est terminée la présidence française de l'Union européenne. On dit que c'est un succès. Pourquoi ?
Non, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, il y a eu beaucoup de choses qui étaient inscrites, hein, puisqu'encore une fois, la présidence d'un pays, au fond, elle va faire en sorte que tous les textes qui ont été votés par le Parlement, par le Conseil, puissent aboutir. Je le rappelle que la présidence est le maître des agendas. Et donc, dans ce contexte, il faut dire que la présidence française, et notamment tous ceux qui ont contribué à son succès...
Maître des horloges, Emmanuel
Macron. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi, et je tiens à leur rendre hommage, on a également toute une infrastructure diplomatique de très, très grande qualité, qui a été vraiment le rouage de toute cette mécanique et qui a admirablement fonctionné. Et c'est là où on voit que c'est très important d'avoir une grande diplomatie et qui fonctionne bien.
En fait, peut-être un petit message aussi sur le fait que...
Et qui fonctionne très bien à Bruxelles, c'est essentiel.
Le corps des diplomates a été supprimé
le deuxième point.
Par Emmanuel Macron, oui. Et on le sent bien en France, ça fait des remous. Vous dites qu'en tout cas, ça a bien fonctionné.
Écoutez, en tout cas, vraiment, il faut s'en féliciter pour l'Europe, évidemment, et pour la France. Mais il y a aussi beaucoup d'imprévus. Au fond, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'imprévus. Et là, effectivement, c'est le chef de l'État, le président de l'Union en exercice, qui joue tout son rôle. Emmanuel Macron, et on le sait, avec notamment le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Europe a vraiment réagi très rapidement, très fortement.
Qu'est-ce que la France a apporté à l'Europe pendant ces 6 mois?
D'abord, encore une fois, en tant que président de l'Union en exercice, Emmanuel Macron a su convoquer les conseils, mettre tout le monde d'accord, d'abord sur des choses très importantes, hein, je le rappelle, pour la première fois, nous avons décidé de livrer des armes ensemble, collectivement, c'est une première dans l'histoire de nos institutions européennes, pour aller répondre aux demandes de l'Ukraine contre cette agression. Je rappelle également qu'il y a eu 6 trains de sanctions qui ont été pris, de façon encore une fois à réagir fortement contre cette agression, mais aussi, on aura l'occasion d'en reparler à Pauline de Malherbe, j'imagine, mais aussi pour faire en sorte que nous ne dépendions plus de la Russie, car on sait encore une fois que Vladimir Poutine utilise toutes les dépendances contre nous.
J'allais en parler, mais vous m'en donnez l'occasion. 4 mois de guerre, des trains de sanctions, en effet, qui ont été crescendo, à chaque fois d'ailleurs annoncés avec grand roulement de tambour, et pour autant, on le voit bien, la Russie continue à avancer et continue à tuer. Est-ce que ces sanctions, au fond, avec le recul, vous ne vous dites pas qu'elles n'ont pas été suffisantes?
Je prends un exemple que nos téléspectateurs vont trop bien comprendre. Vous trouveriez légitime que alors que cette guerre a été voulue par Vladimir Poutine, déclenchée par lui et puis aussi tous ceux qui dépendent de lui, et je pense en particulier aux oligarques, vous trouveriez légitime que pendant que Vladimir Poutine et les siens mènent cette guerre terrible, les oligarques viennent en Europe se prélasser sur leur yacht dans les villas sur la Côte d'Azur? Non, bien sûr. Nous avons donc pris des sanctions, d'abord parce que nous sommes un État de droit et qu'il y a des choses qui sont inacceptables et que nous ne pouvons accepter en tant que continent, premier continent démocratique. On ne peut pas accepter ce type de comportement.
Mais
deuxièmement...
Je comprends bien, mais ça n'a pas empêché, en aucun cas, ces sanctions n'ont eu un impact réel sur la guerre.
Alors deuxièmement, il y a eu effectivement des sanctions économiques très fortes. Pardon, mais enfin, une récession quand même, on est à moins 10% en Russie. C'est évident, il ne s'agit pas de punir le peuple russe. Le peuple russe est victime également de la politique menée par Vladimir Poutine. Il s'agit tout simplement, pour nous, ensemble de faire en sorte que la pression soit suffisante. Vous savez, pour commencer à découpler, j'utilise le mot, à découpler la Russie l'Union européenne. Découpler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Russie sera toujours là, la géographie est là. Mais ça veut dire que nous devons limiter au maximum désormais nos dépendances, les découpler, car on sait que Vladimir Poutine n'aime pas le projet européen, qu'il fait tout pour nous diviser, et que notamment dans cette guerre, il va utiliser les éléments qu'il a, on va parler du gaz, j'imagine, d'un certain nombre de matériaux, pour faire du chantage. Donc, les sanctions pour but de faire en sorte que nous puissions le plus rapidement possible nous défaire de sa capacité à faire du chantage.
Mais voilà. Pardon, Thierry Breton, justement.
Et on y arrive.
Qui fait du chantage ? C'est lui qui nous fait du chantage. Nos sanctions n'ont pas vraiment eu. On a l'impression que c'est lui qui mène la danse, qui choisit le tempo.
Pardon, mais enfin, on ne dépend plus maintenant du fioul russe, on ne dépend plus du charbon russe, on ne dépend plus d'un nombre très important de matériaux qui venaient de Russie. Donc, heureusement qu'on a réussi à se défaire très vite, parce qu'on a travaillé collectivement, de façon solidaire. C'est vrai qu'il y a encore le problème du gaz. Mais vous savez, dès le premier jour du conflit, à Bruxelles, nous avons réuni l'ensemble de nos équipes et on a bâti un plan, on appelait ça un plan B, au cas où Vladimir Poutine, là aussi, utiliserait le gaz comme arme. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a fait ? On n'a pas mis le gaz sur les sanctions, mais c'est lui-même qui a commencé, qui a coupé le gaz en Bulgarie, puis en Pologne, puis aux Pays-Bas, puis au Danemark, puis ensuite dans les pays baltiques. Et puis enfin, lorsque Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont allés à Kiev, ils ont...
Et c'est comme par hasard. Lui qui nous punit.
Bien sûr, mais on le sait, on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. Et c'est la raison pour laquelle, dès le premier jour, on a tout fait, y compris, et je le dis, pour nous défaire de la Russie en tant que fournisseur de gaz. Et on y arrive, et on va y arriver.
On va y arriver.
Bien sûr qu'on va y arriver.
On va pouvoir se passer
bien sûr,
du gaz
le
russe.
Le plan est là, bien entendu.
À partir de quand ?
Mais on a fait un plan pour que ça se passe tout de suite. Alors bien sûr, tout ce qui est pris est pris. Parce qu'on fait des sanctions, mais on préserve aussi les intérêts de nos 445 millions de concitoyens européens. Donc, tant qu'on prend du gaz russe, on le prend. Mais on sait que on sait très bien, on est naïf de rien.
L'Allemagne a renfloué ses cuves de gaz et donc a précisément redonné, ou en tout cas jamais donné autant d'argent aux Russes qu'au tout début de la guerre.
Mais ne mélangeons
c'est
pas les choses.
Paradoxe.
Pour l'instant, on gère encore une fois
je
cette guerre.
Je veux juste qu'on en reste uniquement à l'image qu'on donne.
J'entends bien votre question. Je veux dire à nos téléspectateurs qu'il est probable, personne ne le sait, mais il est probable que cette guerre dure un certain temps. Et donc, il était pour nous impératif de mettre en place cette transition le plus vite possible. Vous avez raison. À l'heure où nous parlons, on continue à donner de l'argent, effectivement, parce qu'on continue à acheter essentiellement du gaz. On l'a limité par deux, hein, on n'en est plus qu'à 50% à Vladimir Poutine. Dans un an, je pense qu'on sera pratiquement à zéro, et peut-être même avant. Donc, il faut assurer
dans
cette
un
transition.
An à
mais,
zéro.
Mais c'est les plans que nous avons. Mais vous savez, et peut-être même avant, parce que peut-être que lui-même va vouloir, pour nous créer quelques problèmes, réduire, voire diminuer, voire arrêter les livraisons de gaz. Eh bien, nous sommes prêts. On travaille solidairement. Il y a de multiples chantiers qui sont ouverts aujourd'hui. On n'a pas attendu aujourd'hui pour les mettre en place. Je vous donne quelques exemples. On a diversifié de façon très significative avec du gaz naturel liquéfié. Vous savez, on importe 155 milliards de mètres cubes de gaz par an de Russie. On a là 50 milliards, un tiers, qu'on a réussi à reconstituer immédiatement. 10 milliards qui viennent d'autres régions du monde en gaz naturel liquéfié, notamment du sud l'Europe et de la Méditerranée. On a ensuite commencé à mettre sur pied, on n'a pas attendu, par parenthèse, qu'on nous le dise, des réductions d'énergie, parce que là, encore une fois, nos concitoyens européens sont responsables. C'est 10%, c'est 14 milliards de mètres cubes en moins. On a enfin commencé à développer, et je le dis, vous savez, avec beaucoup de hauteur de vue, mais aussi de prudence. Nous avons cet agenda vert, on va le tenir, il est primordial. Mais pendant cette phase de transition, on sait qu'il faudra peut-être poursuivre. Certains avaient décidé d'arrêter les centrales nucléaires, je pense en particulier à la Belgique. Eh bien, ils ont décidé de les poursuivre.
Certains vont devoir même rallumer des centrales
Certains
à charbon.
Certains vont décider, effectivement, de rallumer des centrales à charbon. Je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense évidemment peut-être à la centrale de Saint-Avold en France. Eh bien, il faut le faire de façon temporaire, évidemment, pour assurer cette transition. On a évidemment accéléré les énergies renouvelables. On a fait en sorte que des grandes entreprises qui utilisaient plutôt du gaz pour leur énergie passent au fioul. Donc, tous ces projets-là sont en route.
C'est vrai, quand je vous écoute, je me demande qui punit qui. C'est-à-dire qu'on a dit on punit la Russie, on se rend compte que c'est surtout la Russie qui nous punit.
Madame de Malherbe, on est dans une situation où Vladimir Poutine a déclenché cette guerre sur le continent européen à l'Ukraine. Et donc, on met en place une transition. La seule façon de le faire, et je le dis de façon très claire ce matin, c'est de le faire comme on l'a fait pour les vaccins. En solidarité, tous ensemble et de façon unanime. Il ne s'agit pas de dire...
L'Europe ne va pas craquer.
Non, l'Europe est unanime. Et croyez-moi, on travaille de façon unanime. Bien sûr que Vladimir Poutine n'attend qu'une chose, comme il l'a fait, on sait, avec la désinformation, comme il l'a fait en utilisant de façon éhontée les migrants, comme il l'a fait avec les attaques de cybersécurité, comme il l'a fait pendant les vaccins. Il fait tout pour essayer de nous diviser. Eh bien, il n'y arrivera pas. Parce que nous sommes solidaires, parce que, évidemment, ça va être difficile. Mais on a des solutions. On va les mettre en place. Il faut qu'on passe. Ouais, je vous donne un exemple. On est aujourd'hui à 56% de remplissage de nos cuves. L'année dernière, on rentre dans l'hiver à 37% seulement. Donc on est pratiquement à deux fois plus et on est au cœur de l'été.
Donc
même pas au cœur
de
l'été, on rentre dans l'été. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 41 jours de gaz pour l'hiver. On va continuer à augmenter nos réserves. Donc oui, on va y arriver. On va y arriver. Parce que nous sommes solidaires.
Il y aura aussi une autre question qui est la question de la sobriété. On l'entend, en France en tout cas, ce sont les fournisseurs d'énergie qui se sont mis à agiter le chiffon rouge en disant attention, on manquera d'énergie, on ne pourra pas vous fournir si vous tous ne faites pas d'efforts, vous tous, c'est les entreprises et les particuliers. Est-ce que l'État doit avancer davantage vers une stratégie comme le fait l'Allemagne par exemple en disant il faut vraiment que tout le monde fasse un effort et éteigne la lumière en quelque sorte et comprenne qu'il faut aller vers plus de sobriété?
Nous sommes dans, alors, le président de la République qui le dit, donc je vais reprendre ces termes, d'une certaine façon, une sorte d'économie de guerre dans cette période, notamment pour l'énergie. Donc j'appelle chacun à sa responsabilité, à la responsabilité de ce qu'il doit faire. Et de façon solidaire, je le redis. Voilà, les énergéticiens, ils sont là pour fournir de l'énergie, quoi qu'il arrive. Les centrales nucléaires françaises, beaucoup sont à l'arrêt, il faut donc très vite faire en sorte que et à la maintenance, donc c'est normal.
Qu'elle fonctionne.
Voilà, mais il faut peut-être mettre les bouchées doubles. Voilà, c'est ça ce qu'on attend des énergéticiens.
Ceux qui produisent. Même presque un peu en colère contre l'appel de la
Non, je dis pas du tout. Je trouve que. Je le dis, je me suis du reste souvent entretenu avec Engie en leur disant qu'il fallait qu'ils fassent tout ce qu'ils pouvaient pour répondre aux demandes du gouvernement. Pour répondre aux demandes du gouvernement belge qui a demandé à Engie de poursuivre le fonctionnement des 4 centrales qu'ils opèrent. Chacun doit faire son travail. C'est bien, évidemment, que tout le monde s'exprime, mais encore une fois, nous sommes tous solidaires. J'attends donc de chacun, de nous tous. Vous savez, on n'a pas attendu. Dès le premier jour du conflit, on a explicité ce plan de solidarité européenne dans lequel, effectivement, on a entre 10 et 15% d'économie d'énergie. On a pris ce chiffre il y a deux mois
on
déjà.
On doit tous faire, au fond.
Oui, mais donc, voilà, rien de nouveau. Voilà, c'est dit. Mais encore une fois, que chacun soit le plus imaginatif possible et solidaire dans cette période.
Thierry Breton, tout cela a été aussi l'objet de politique en France, parce que certes, vous disiez que sur le front européen, pour Emmanuel Macron, ça avait été un succès. Il traverse quand même une crise politique majeure en France, avec aussi, dès le début de ce second tour des législatives, un sous-entendu lancé par la France Insoumise qui dit qu'au fond, la France va être obligée, parce qu'elle s'est engagée auprès de vous, Thierry Breton, auprès de l'Union européenne, à réduire son déficit, à trouver 80 milliards. Et donc, la France Insoumise dit qu'il y a un plan caché qui, à un moment ou à un autre, imposera de remonter les impôts. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Non, je ne veux absolument pas polémiquer, encore une fois, avec certains partis des États membres, y compris celui de mon pays, bien sûr. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas. Voilà, c'est 80 milliards.
France va devoir trouver 80 milliards?
Il faut savoir, surtout quand on va occuper des fonctions, j'ai cru comprendre que c'était la France Insoumise qui allait présider la commission des finances, il faut être très précis sur les chiffres. Donc si c'est uniquement pour dire que ces 80 milliards, c'est le différentiel de 6% de déficit à 3% de déficit. On avait 6% de déficit, évidemment, pendant la crise du Covid, parce qu'il avait fallu que l'État se substitue aux entreprises, puisque l'État avait décidé de façon unilatérale de fermer certains secteurs pour des raisons sanitaires, devait le compenser. Voilà, il n'y a plus maintenant cette situation. Donc, on va revenir, j'allais dire, mécaniquement, du moins 6 au moins 3. C'est sans doute les 80 milliards. Enfin, il faudra qu'ils expliquent. Mais c'est pas, encore une fois...
Il n'y a pas de plan caché. En tout cas, Bruno Le Maire n'est pas venu vous voir. Vous pouvez nous dire ce matin sur RMC BFM TV, Thierry Breton, que Bruno Le Maire n'est pas venu vous voir en vous disant, OK, je fais amende honorable, je vous jure que je vais réduire de 80 milliards, trouver 80 milliards. Il n'y a pas de plan caché.
On a l'impression que vous êtes à Bruxelles et que vous avez pu vous-même constater ce que vous dites. Voilà, donc, effectivement. Voilà, il n'y a pas de plan caché. Il y a uniquement le fait que, alors là c'est autre chose, mais qui ne concerne pas que la France. Il y a le fait que nous sommes une collectivité, les 27 États membres, et que donc il faut qu'on ait des politiques de plus en plus convergentes ensemble. Voilà, si jamais il faut faire des efforts pour l'énergie, on les fera ensemble. Ce qui est important, c'est le mot, c'est ensemble, en convergence.
De nombreux partis, alors on va voir si en France... au sein des différents partis qui forment, du coup, puisqu'il n'y a pas de majorité naturelle, qui pourraient former des coalitions, on verra s'ils sont ensemble. En tout cas, il y a un point sur lequel un certain nombre de partis voudraient avancer, c'est une taxation sur les super profits des grandes entreprises. Le Rassemblement national, qui était incarné par le député Chenu à ce même micro vendredi, disait on pourrait proposer de prendre 2/3 de ces surprofits. C'est-à-dire, quand une entreprise a fait pendant le Covid un surprofit, on leur laisse 1/3, on prend 2/3. Est-ce que ça, au niveau européen, ça passe?
Oui, nous avons mis, on a donc ce qu'on appelle dans notre langage, donc, disons, des politiques communes, une boîte à outils commune, pour donner effectivement des idées aux États membres pour traverser cette situation qui est là encore inédite et dans laquelle il va falloir accompagner, et notamment accompagner les plus défavorisés. Donc nous avons effectivement dans cette boîte à outils la possibilité qui est offerte aux États membres, s'ils le veulent, de façon temporaire. Il faut évidemment donner de la lisibilité, il ne faut pas le faire comme ça nuitamment. Je crois qu'il faut toujours, les marchés ont horreur, et c'est normal, et d'une façon générale les entreprises, d'avoir des décisions abruptes, donc il faut expliquer tout ça.
Mais en tout cas, vous n'y êtes pas défavorable.
En tout cas, elles doivent s'y préparer, parce qu'elles savent que ça fait partie effectivement des mesures, donc
elles-mêmes
qui sont,
doivent participer à cette économie de guerre,
parce qu'elles savent que c'est aujourd'hui possible. Certains pays commencent à le faire, donc à elles, encore une fois, et je le dis en solidarité pour passer cette période, de se préparer à cet effort de solidarité qui sera demandé à tous.
Thierry Breton, l'inflation touche tous les pays européens, mais finalement la France s'en sort plutôt moins mal que ses voisins. Est-ce que vous avez une explication?
Oui, bien sûr. Il y a eu très vite une réaction. Je crois que Bruno Le Maire a très bien réagi très vite en proposant.
Bruno Le Maire qui restera à l'économie et à Bercy.
Et donc en proposant effectivement d'avoir la possibilité donc d'accompagner avec ses chèques énergie, avec l'offre qui est faite donc à l'ensemble de nos compatriotes, donc de réduire le coût d'achat de l'essence ou du gasoil à la pompe. Donc il y a des mesures qui sont des mesures ciblées. C'est encouragé effectivement aussi aujourd'hui dans la boîte à outils à laquelle je faisais référence il y a un instant. Et donc voilà, la France a plutôt bien géré ça. Il faut le constater.
Vous avez cette vision d'ensemble. Vous pouvez le dire ce matin.
C'est vrai. Il va falloir maintenant faire évidemment très attention, parce que l'argent magique ne tombe pas du ciel. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je le dis, il faut que de plus en plus on fasse les choses en solidarité.
Thierry Breton, il y a quand même un vrai problème en France, qui est le problème des salaires. Oui. Ça commence à craquer de toutes parts, avec du coup aussi un certain nombre de postes qui ne trouvent pas d'offrants, qui ne trouvent personne pour les faire. Est-ce qu'il faudrait aller, y compris en France, vers une indexation des salaires sur l'inflation? C'est ce que font un certain nombre de pays européens.
Belgique,
est-ce
exemple,
que vous y êtes favorable?
D'autres le font. Encore une fois, là, c'est vraiment à la main des États. Moi, je ne veux pas interférer pour les
Mais
États.
Mais ça veut dire qu'en tout cas, techniquement,
sûr,
la France n'est
sûr,
pas empêchée
il y a, encore une fois, c'est ce que
d'indexer
font,
les salaires
c'est ce
sur les
que font un certain nombre de pays. Après ça, chaque pays décide de le faire. En revanche, là où il y a un point, effectivement, sur cette inflation, elle est là. Elle risque de durer. Elle trouve son origine, on le sait, essentiellement aujourd'hui sur les prix de l'énergie. Vous avez raison de dire qu'il y a par ailleurs une tension sur le marché du travail, ce qui est à la fois une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a jamais eu un taux de chômage aussi bas que depuis des décennies, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut effectivement avoir de l'activité, et donc on sent que, vous savez, je vois des tas de prévisions, etc. Voilà, je pense qu'il faut être clair, l'inflation va durer cette année, c'est évident, on verra ce qui se passe l'année prochaine. Est-ce qu'on va rentrer en récession? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça va dépendre, et je vous le dis, ça va dépendre de la façon dont on gère la crise énergétique. Et si on gère la crise énergétique de façon coordonnée, je pense qu'on pourra éviter la récession. Si jamais il y a des dissensions, ça peut effectivement avoir créé des tensions, notamment des arrêts de secteurs, et c'est tout ce qu'on veut éviter. Parce que arrêter un secteur, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, c'est toute la chaîne de valeur qui peut à ce moment-là se mettre à l'arrêt.
Ça fait partie des scénarios allemands. Les scénarios allemands, c'est éventuellement de fermer carrément des entreprises, des objets à arrêter de travailler la nuit.
Je suis en permanence en contact, j'étais encore hier soir avec Robert Habeck, qui est le vice-chancelier qui est en charge de ces questions, pour voir comment on peut s'harmoniser au maximum plutôt que de décider de façon unilatérale de fermer
tel ou tel secteur. Ensemble, est-ce que ça voudrait dire, ça pourrait vouloir dire aussi, à un moment ou à un autre, mettre en commun nos productions
absolument,
d'énergie, ça pourrait aller jusque-là?
Absolument, ça fait partie du reste d'un sujet sur lequel nous travaillons, et que nous, à la Commission, évidemment, en étroite coopération avec les États membres.
Comme on a fait l'Europe de l'acier.
Comme on a fait aussi l'Europe des vaccins. Voilà, donc on a acheté en commun. Donc ça fait partie effectivement des éléments sur lesquels nous travaillons et qu'on voudrait présenter avant l'été.
vers une Europe de l'électricité et du gaz.
Et l'énergie interconnectée, c'est très important, interconnectée en matière électrique, interconnectée également en matière de gaz, qui deviendront ensuite des pipelines d'hydrogène. Donc oui, les infrastructures sont essentielles, il faut qu'on investisse massivement et prendre, je dirais, cette crise comme aussi une opportunité pour accélérer notre autonomie, notre indépendance énergétique, en particulier à travers le renouvelable.
Thierry Breton, commissaire européen au marché européen, merci à vous d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je vous le rappelle évidemment, le remaniement est imminent. Toutes les informations à suivre sur BFM TV et RMC, il est 8h53.